La journée se poursuit sur France Culture avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Édouard Philippe entame ce matin 2 jours de consultation à Matignon pour dessiner la grande concertation locale de 3 mois voulue par Emmanuel Macron pour tenter de répondre au mouvement des Gilets jaunes. Des porte-paroles de la délégation officielle de ces Gilets jaunes seront reçus demain d'ailleurs par le Premier ministre Édouard Philippe à la veille de l'acte 3 de leur mobilisation. Quel soutien apporter aux structures qui agissent en faveur de l'utilité sociale? Le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Ittier, présente ce matin son plan de croissance pour le secteur afin d'améliorer notamment sa visibilité en France et à l'international via une 100aine de mesures. Catherine Pétillon.
Les principaux intéressés n'auront pas eu la primeur des annonces ni même vraiment voix au chapitre. Nombreux sont les acteurs et employeurs de l'économie sociale et solidaire à regretter le manque de concertation et d'information autour du plan de croissance présenté ce matin. Ils en attendent néanmoins beaucoup et le haut commissaire Christophe Ittier le promet significatif avec plus d'une 100aine de mesures. Objectif affiché, faciliter le changement d'échelle des structures concernées, associations, coopératives, mutuelles et entreprises sociales, consolider les modèles économiques, rendre le secteur plus visible, y compris en Europe. En France, l'économie sociale et solidaire représente déjà 10% du PIB et emploie près de 2,5 millions de personnes. Il y a un an, le Haut Commissariat a lancé une nouvelle bannière de l'innovation sociale, baptisée French Impact, référence à la French Tech. Il a depuis sélectionné 22 projets qui bénéficieront d'un accompagnement. Mais ce qu'attendent désormais les principales fédérations d'employeurs, c'est une feuille de route et des mesures financières, juridiques et administratives. C'est aussi la tonalité et les orientations du plan que scrutera avec attention le monde associatif, car la philosophie sous-jacente aux premières mesures, orientée vers le modèle entrepreneurial, avait inquiété de nombreuses associations, et cela d'autant plus qu'un grand nombre d'entre elles ont été mises en difficulté par la baisse des contrats aidés.
Matteo Salvini, droit dans ses bottes en Italie. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité de l'adoption hier d'un décret-loi au Parlement, un texte qui durcit la politique italienne en matière d'immigration. Ce texte remplace en particulier les permis de séjour humanitaire actuellement octroyés à 1/4 des demandeurs d'asile pour 2 ans par divers autres permis d'une durée moins longue, de 6 mois à 1 an. Ce décret prévoit encore une procédure d'urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur d'asile qui se montrerait dangereux. Le gouvernement populiste italien a par ailleurs annoncé hier qu'il ne signerait pas le pacte de l'ONU sur les migrations, comme s'y était engagé en 2016 le précédent exécutif avec le centre-gauche Matteo Renzi. Ce pacte mondial pour les migrations doit être définitivement adopté dans 2 semaines à Marrakech. Un texte non contraignant qui divise l'Europe et qui crispe au-delà des 28, du Québec à l'Australie en passant par les États-Unis et Israël. Quoi qu'il arrive, le Brexit pèsera forcément sur l'économie britannique. Mais l'accord négocié par Theresa May pourrait limiter les dégâts. C'est la conclusion d'un rapport publié hier par la Banque d'Angleterre, estimant qu'une sortie de l'Union européenne sans accord plongerait le pays dans la crise. Effondrement de la livre de 25%, montée en flèche du chômage à 7,5%, inflation encore à 6,5%, de bien sombres perspectives, Antoine Gignot.
Oui, notre travail, c'est de nous préparer au pire, explique le gouverneur de la Banque d'Angleterre, car quel que soit le scénario, la situation économique va se détériorer si le Parlement valide dans 2 semaines le texte d'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. Le produit intérieur brut sera moins élevé que prévu, moins 2 à 4% dans les 15 prochaines années. Et si les députés votent contre le texte de la Première ministre, ce sera bien pire, moins 8, peut-être moins 10,5% avec un effondrement d'un tiers des prix de immobilier, une inflation galopante, des taux d'intérêt à la hausse, la récession la plus sévère depuis la Seconde Guerre mondiale, disent les analystes. Les chiffres sont crédibles. 2 études indépendantes publiées cette semaine montrent aussi que les ménages pourraient perdre en cas de Brexit dur 850 à 2000 euros par an. C'est la crédibilité des conservateurs qui est en jeu, lance Joe Johnson, l'ancien ministre qui a démissionné cet automne, réclame un deuxième référendum et les travaillistes de leur côté dénoncent des négociations bâclée. Ils appellent eux aussi à faire barrage à l'accord proposé par le gouvernement.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. À 3 jours de l'ouverture de la 24e conférence des Nations Unies sur le climat en Pologne, le Brésil renonce, lui, à accueillir la COP25 l'an prochain. Officiellement pour des raisons budgétaires, mais pour les organisations de défense de l'environnement, ce n'est pas l'argent qui pose problème, c'est plutôt l'envie d'organiser un tel événement en 2019 dans un pays qui sera alors présidé par le climato-sceptique Jair Bolsonaro. Le reggae de Jamaïque vient d'être inscrit inscrit ce matin sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Choix donc d'un comité spécialisé de l'UNESCO réuni sur l'île Maurice. Le temps de ce jeudi 29 novembre, pluvieux sur la moitié nord de l'Hexagone, davantage d'éclaircies au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 15 et 17 degrés près de la Méditerranée dans le sud-ouest, 10 à 15 degrés dans le reste du pays. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.